Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le service protestant. Ce matin, nous recevons Axel Bieber de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, vicaire à Célestat. Le vicariat est une période d'apprentissage de 3 ans sur le terrain avant d'être ordonné pasteur. Et pour ce premier dimanche après Pâques, Axel Bieber nous propose une méditation sur le célèbre doute de l'apôtre Thomas. Vous savez, celui qui ne croit que ce qu'il voit. Alors, à vous qui êtes à l'écoute ce matin, quels sont vos doutes ? Et comment les articulez-vous avec vos convictions ou vos certitudes ?
Quelle que soit votre humeur et votre état d'esprit ce matin, quelles que soient vos convictions, quelle que soit votre sensibilité religieuse, soyez toutes et tous les bienvenus pour ce moment de prière, de réflexion, de recherche et d'émerveillement. Pour nous accorder ce temps à part, je vous invite à laisser de côté pendant une demi-heure toutes les considérations politiques. Nous entrerons d'autant mieux dans cette journée d'élection présidentielle si nous prenons d'abord un peu de recul, si nous commençons par tourner nos regards vers nos cœurs et vers le ciel pour nous mettre en recherche de Dieu et de nous-mêmes. Nous voici une semaine après Pâques, la fête qui célèbre la résurrection du Christ. La résurrection n'est pas seulement un événement isolé, qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais c'est une victoire de la vie sur la mort qui a des incidences jusqu'à aujourd'hui dans nos vies. Avec la résurrection, c'est le monde entier qui trouve un nouveau souffle. C'est une bonne nouvelle pour toute l'humanité. Mais comment la recevoir, cette bonne nouvelle ? Comment croire à cette histoire de tombeau vide, de mort qui revient à la vie ? Cela contredit complètement l'expérience que nous faisons dans notre quotidien. Alors comment y croire ? Comment s'approprier cette bonne nouvelle et comment s'en réjouir ? L'histoire de l'apôtre Thomas, que nous allons entendre tout à l'heure, pourra peut-être nous donner quelques pistes. Remettons ce temps de prière et de recherche entre les mains de Dieu, qui est Père, Fils, et Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous en route en nous appropriant cette prière d'Anselme de Canterbury. Je cherche ton visage, Seigneur. Ne le cache point. Enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher, où et comment je te trouverai. Puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas ? Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible. Mais où resplendit-elle cette lumière ? Et comment parvenir jusqu'à elle ? Qui me guidera ? Qui m'introduira pour que je puisse te voir ? Regarde-moi, Seigneur, et exauce-moi. Donne-moi la lumière, montre-moi. Aie pitié de mes efforts pour te trouver, car je ne peux rien sans toi. Tu nous invites à te regarder, aide-moi, apprends-moi à te chercher, car je ne peux le faire si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant je te trouve, et que je t'aime en te trouvant. Amen. Quelques jours après la mort de Jésus sur la croix, ses disciples découvrent que son tombeau est vide, puis rencontrent le ressuscité et réalisent que la mort n'a pas eu le dernier mot sur lui. Chaque évangile raconte cette rencontre à sa manière. Dans l'évangile selon Jean, l'apparition de Jésus à ses apôtres donne lieu à une confrontation très particulière entre le Christ et l'un de ses disciples, Thomas. Écoutons cet extrait. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à leur joie. Alors à nouveau Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur répondit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée, il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Ensuite il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. » Je ne sais pas vous, mais moi, ce Thomas, ce personnage qui veut voir et toucher le Christ, il m'a remué. Il a fait émerger en moi une prière que j'ai couchée sur le papier et que j'aimerais vous lire. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans l'une ou l'autre phrase, ou peut-être pas. Dans tous les cas, mon espoir, c'est que cette approche très personnelle du texte vous invite à écouter les échos que le personnage de Thomas réveille dans votre propre histoire. Voici donc cette prière. Jésus le Christ, je veux te parler de Thomas, ton disciple. Tu sais, celui qui arrive comme un cheveu sur la soupe, au milieu d'une grande fête. Ses amis sont tout à leur joie parce qu'ils t'ont vu, parce que tu es revenu à la vie, parce que tu as vaincu la mort. Mais Thomas ne se laisse pas gagné par leur enthousiasme, il doute. Dans la douceur de ce moment, il amène comme une pointe d'amertume. Si je te parle de Thomas, c'est parce que je me reconnais beaucoup en lui. Lorsque j'entends le récit de Pâques, cette histoire de mort sur une croix, de tombeau vide et d'apparition, eh bien il y a comme un murmure en moi qui s'élève pour dire « Est-ce que vraiment je peux croire à cette histoire de fou, simplement sur la base d'un témoignage vieux de 2000 ans? Et est-ce que je peux fonder ma vie là-dessus? » Cette voix du doute s'est fait entendre avec plus ou moins d'intensité, selon les étapes de mon histoire, mêlant son amertume à la douceur de ma relation avec toi. Je n'ai jamais trop su quoi faire de cette voix. Dans d'autres domaines, pourtant, le doute me sert énormément. C'est lui qui me permet de prendre de bonnes décisions. Si, disons, je visite un appartement, la voix du doute me dira « Est-ce que vraiment je vais m'y sentir bien ?» Et elle me poussera à regarder partout, à envisager tous les paramètres. Et elle m'évitera peut-être de mauvaises surprises. Mais en matière de foi, à quoi peut me servir cette voix? Le doute est à l'affût de preuves tangibles. Où les trouvera-t-il lorsqu'il s'agit de toi? Tu n'en laisses aucune. Tu te donnes à connaître par des paroles, une tonne de paroles, les mots de la Bible, les mots entendus à l'Église, ou bien encore au culte du service protestant sur France Culture. Mais les mots sont trompeurs et effervescents. Aucun mot ne pourra venir rassasier mon doute. Il a soif de concret. Il veut des faits. Il veut du solide. En général, j'essaye d'ignorer cette voix intérieure. Elle est là comme un bruit parasite qui se mêle à mes prières. Et voilà que je lis l'histoire de Thomas, qui débarque dans le récit de Pâques pour se faire le porte-parole de mon doute, pour le faire sortir de l'anonymat. Ce que j'aimerais cacher aux autres, à moi-même, et à toi, si c'était possible, lui, il le crie haut et fort lorsqu'il dit « Si je ne vois pas dans mes mains la marque des clous, et si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et son appel ne reste pas sans réponse. Tu reviens faire une apparition dans la maison des apôtres, juste pour lui. Tu fais plus que te montrer à lui. Tu t'offres à lui. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Tu te plies à ses exigences. Tu lui livres ton corps. Tu es prêt à accueillir son doute jusque dans tes tripes. Alors Jésus, l'audace de Thomas me pousse à avoir de l'audace à mon tour et à te demander « Ne pourrais-tu pas aussi répondre à mon doute qui crie, qui t'appelle ? Ne pourrais-tu pas venir et te présenter devant moi ? Tu l'as fait pour Thomas, tu pourrais le faire pour moi, ne serait-ce que par souci de justice. Moi aussi je veux te rencontrer, mettre mes doigts dans tes stigmates, enfoncer ma main dans ton côté. Viens me voir. On pourrait par exemple se rencontrer un jour dans ma paroisse, à Célestat. L'église protestante se trouve place du marché aux pots, entre un fleuriste et une agence de voyage. Enfin, tu connais le chemin. » En écrivant cette prière, un tas de souvenirs me reviennent en mémoire. Je repense au premier mois de mes études de théologie à Strasbourg. C'était une période où la voix du doute hurlait très fort sur ma foi et sur tout le reste. Je venais de quitter la maison de mes parents, je découvrais une nouvelle ville, un nouveau cercle d'amis. Les cours à la fac faisaient naître en moi des milliers de questions et peu de réponses. Je n'avais plus aucun point de repère. Toi, tu me semblais si loin, inaccessible. Et un soir, pendant un culte universitaire, l'assemblée s'est mise en cercle pour prendre la Sainte Cène. Pendant qu'on distribuait le pain et le vin, quelqu'un s'est mis à chanter un chant de Thésée. Et là, quelque chose s'est débloqué en moi. J'ai su que tu étais présent, tout près. Je ne t'entendais pas, je ne te voyais pas, et pourtant ta présence silencieuse et mystérieuse avait quelque chose de très concret. C'était comme si ton écoute faisait vibrer mes pensées, mes émotions, mes silences. Est-ce que vraiment tu étais là ce jour-là? Ou est-ce que je me suis fait des idées? et plus tard dans ma vie, dans tous ces regards que l'on m'a adressés et qui m'ont relevé. Est-ce que tu étais là? Et dans ces visages qui m'ont souri et accueilli, dans lesquels j'ai cru percevoir tes traces, est-ce que tu étais vraiment là? Si tu étais là, alors je n'ai pas besoin que tu viennes. Je t'ai déjà vu. Je t'ai déjà touché. J'ai laissé parler la voix du doute en moi. Elle a crié bien fort. Elle s'est mise à t'appeler. Elle a fouillé en moi et déterré ses beaux souvenirs. Mais pendant que je me les remettais en mémoire, le doute n'a pas essayé de mener sur eux une investigation, d'en faire une preuve de quoi que ce soit. Tout à coup, il ne s'agissait plus de cela. Il ne s'agissait plus de s'assurer, mais de s'émerveiller, de contempler. Le doute s'est effacé pour laisser place à la confiance. Cela s'est peut-être passé de la même façon pour Thomas. Le récit ne dit pas s'il a bel et bien mis ses mains dans tes stigmates, s'il a mené son investigation jusqu'au bout et touché cette preuve qu'il réclamait. Peut-être qu'il n'en a pas eu besoin. Peut-être que pour lui aussi, une fois qu'il s'est retrouvé nez à nez avec toi, il ne s'agissait plus de rien d'autre que de s'émerveiller et de contempler. La voix du doute s'est tue. Il n'y a maintenant plus qu'une seule voix en moi. Elle me pousse à faire mien de tout mon être ce cri de Thomas, ce cri de louange, cette profession de foi sans nuance et sans réserve, mon Seigneur et mon Dieu. Tu t'es offert à Thomas, tu t'es offert à moi. À présent, c'est à moi de me donner à toi. Viens, je lève les barrières. J'ouvre tous mes ports pour t'accueillir dans ma vie. Viens investir mes pensées, mon cœur, mon corps, mes actes. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Dans cette prière, j'ai pris Thomas pour exemple. J'ai laissé s'exprimer mon doute et j'ai refait le même chemin que lui. Mais pourtant, Jésus n'a-t-il pas critiqué l'attitude de Thomas en disant « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans voir, ont cru. » À cause de cette phrase, on a longtemps vu Thomas comme un mauvais exemple, à ne surtout pas suivre, et on s'est méfié du doute. Mais on peut se demander, est-ce que les auteurs de l'Évangile se seraient pris la peine de relater l'histoire de Thomas avec autant de détails, si c'était pour rejeter en bloc son attitude? Et après tout, c'est Thomas le premier qui, en voyant le ressuscité, le reconnaît comme son Dieu. Il a une longueur d'avance sur les autres. Aussi, je ne crois pas que Jésus rejette totalement la démarche de Thomas, ni le doute en général. Il en montre simplement les limites. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Avant de voir Jésus, Thomas ne montre pas même une once de confiance. Son propos en forme d'ultimatum a quelque chose de sec, d'agressif. Et ne parle-t-il pas d'enfoncer sa main dans une plaie? Il y a de la violence là-dedans. Le doute peut être très violent, s'il n'est pas adouci par au moins un brin de confiance. La voix du doute et celle de la foi peuvent entretenir une cohabitation très fertile dans nos cœurs. On devrait toujours écouter ces deux voix à la fois lorsque l'on cherche Dieu. Comme dans cet appel qu'un homme lança un jour à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Le doute fait grandir chez Thomas un désir de rencontre réelle, concrète. J'ai décrit un moment de ma vie qui a été, pour moi, une rencontre avec Dieu. Vous en avez peut-être fait une expérience tout à fait différente. Il y a tant de diversité dans les témoignages. Certains ont pris conscience d'être liés à Dieu en contemplant les merveilles de la nature, d'autres en contemplant le silence, d'autres en priant, d'autres en réfléchissant, et d'autres encore l'ont vu à l'œuvre dans un engagement social ou politique. Pour certains, la rencontre avec Dieu est vécue dans un moment précis, à part, tandis que d'autres ont plutôt l'impression que Dieu les accompagne jour après jour. Les uns le décrivent comme un grand feu, d'autres comme une étincelle, comme une force puissante ou comme une brise ténue. Le Dieu unique se présente sous mille facettes différentes et prend place partout où on l'invite. Terminons notre confrontation avec ce texte de l'Évangile de Jean, comme le fait l'apôtre Thomas, dans l'émerveillement et la louange, en priant avec ces mots de Grégoire de Nazianze : « Ô toi, l'au-delà de tout, comment t'appeler d'un autre nom ? Quel hymne peut te chanter ? Aucun mot ne t'exprime. Quel esprit peut te saisir ? Nulle intelligence ne te conçoit. Seul tu es ineffable. Tout ce qui se dit est sorti de toi. Seul tu es inconnaissable. Tout ce qui se pense est sorti de toi. Tous les êtres te célèbrent, ceux qui te parlent et ceux qui sont muets. Tous les êtres te rendent hommage, ceux qui pensent comme ceux qui ne pensent pas. L'universel désir, le gémissement de tous, aspire vers toi. Tout ce qui existe te prie, et vers toi tout être qui sait lire ton univers fait monter un hymne de silence. Tout ce qui demeure, demeure en toi seul. Le mouvement de l'univers déferle en toi. De tous les êtres, tu es la fin, tu es unique. Tu es chacun et tu n'es aucun. Tu n'es pas un être seul, tu n'es pas l'ensemble, tu as tous les noms. Comment t'appellerais-je ? Toi le seul qu'on ne peut nommer. Quel esprit céleste pourra pénétrer les nuées qui voilent le ciel lui-même ? Aie pitié, ô toi, l'au-delà de tout. Comment t'appeler d'un autre nom ? Amen. Je vous invite à la prière. Dieu notre Père, mystérieuse source de vie, sois présent sur le chemin de tous ceux et celles qui te cherchent, qui aspirent vers toi, qui frappent à ta porte. Ceux qui te cherchent au sein d'une église chrétienne, ceux qui te cherchent au sein d'une autre religion, ceux qui te cherchent en solitaire. Que leur regard puisse rencontrer le tien. Sois présent sur le chemin de ceux et celles qui ont arrêté de te chercher, par découragement, par peur ou par lassitude. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, approche-toi de toutes les personnes qui se cherchent elles-mêmes, qui cherchent leur identité, leurs racines, leur orientation sexuelle, leur genre, ou celles qui cherchent leur place sur le marché du travail. Qu'ils puissent toucher à leur vérité profonde. Saint-Esprit, souffle de vie, accompagne ce pays qui se cherche en ce jour d'élection présidentielle. Que les citoyens puissent trouver une voix qui les représente parmi les candidats. Tiens-toi auprès de ceux qui iront voter, comme de ceux qui n'iront pas voter parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils n'y croient plus ou parce qu'ils ne se sentent pas entendus. Que le candidat qui sera élu apporte des visions fertiles, des propositions adéquates pour répondre aux défis de notre époque, et que le vent qu'il insufflera à notre pays puisse le conduire vers plus de justice. Personne ne peut te voir ni te saisir, mais tu as fait connaître ton amour pour tous les hommes, cet amour qui fait de nous tes enfants et nous permet de te dire cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Entrons à présent dans cette journée d'élection en étant fortifiés et encouragés par l'amour du Dieu trois fois saint. Faisons-lui une place dans cette journée décisive pour notre pays. Allons porter son espérance dans le monde par nos votes d'aujourd'hui, par nos engagements et par toutes nos paroles et nos actes. Recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Qu'il tourne son regard bienveillant vers vous et vous donne la paix. Amen.
Ainsi s'achève le service protestant avec Axel Bibert, vicaire de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, dans la paroisse de Célestat. Merci à Viviane Noël pour la réalisation et à Stéphane Desmond pour la prise de son. Le service protestant est proposé par Benjamin Bories pour la Fédération protestante de France. Vous retrouverez des informations complémentaires, le podcast et le texte de l'émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Pour recevoir le texte de cette émission, vous pouvez nous adresser un courrier au service radio de la Fédération protestante de France, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h et la suite des émissions à 9h10 avec Marc-Alain Wacknin pour Talmudic. Bon dimanche et à la semaine prochaine.